Les informations sont présentées ce matin par Thomas Larabie. Bonjour Thomas.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Peut-être la fin d'une cavale longue de 8 ans. Un homme aux empreintes digitales correspondant à celle de Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté hier après-midi à l'aéroport de Glasgow alors qu'il arrivait de Paris. Xavier Dupont de Ligonnès est recherché en vain depuis 2011 et le meurtre de sa femme et de ses 4 enfants à Nantes, meurtre dont il est le suspect numéro 1. Nous reviendrons en détail sur cette arrestation.
2 semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, le gouvernement a lancé sur place un comité pour la transparence et le dialogue.
Son but, suivre l'évolution et les conséquences de la catastrophe industriel. Explication dans ce journal. Et puis les affrontements s'intensifient à la frontière turco-syrienne entre l'armée turque et les milices kurdes. Alors que la communauté internationale resserre les rangs pour condamner l'intervention d'Ankara. Reportage dans la petite ville d'Akçak, les côtés turcs de notre envoyé spécial Mathieu Mondoloni. Votre invité ce matin, Caroline.
Dans la foulée de votre reportage et de ce sujet sur les bombardements turcs dans le nord-est de la Syrie, nous recevrons l'historien et politiste, directeur d'études à l'EHESS, Amit Bozarslan, qui vient de s'asseoir dans ce studio.
L'homme le plus recherché de France a peut-être été arrêté hier. Un homme aux empreintes digitales correspondant à celle de Xavier Dupont de Ligonnès a été interpellé à l'aéroport de Glasgow. Il arrivait de Paris. Xavier Dupont de Ligonnès est suspecté d'avoir assassiné sa femme et ses 4 enfants à Nantes en 2011. Haute-Soufi, vous êtes en direct de Londres. Comment le suspect a-t-il été interpellé par la police écossaise ?
Les policiers français ont été informés de la présence de Xavier Dupont de Ligonnès à l'aéroport de Roissy, voyageant apparemment sous une fausse identité, mais ils n'ont pas eu le temps d'intervenir avant l'embarquement. Ils ont donc prévenu Interpol, l'Organisation internationale de la police criminelle, et dès son arrivée à Glasgow, des officiers écossais l'attendaient et l'ont interpellé à sa descente de l'avion en vertu d'un mandat d'arrêt européen. Il n'a apparemment opposé aucune résistance, mais serait resté muet depuis le début de sa garde à vue. Des analyses sont en cours à Glasgow pour tenter d'identifier formellement le suspect. Les policiers français ont transmis des moyens d'identification à leurs homologues écossais. Ils comparent donc l'ADN de Xavier Dupont de Ligonnès avec celui de l'homme qu'ils ont arrêté. Pour le moment, la police britannique se contente de confirmer l'arrestation d'un homme à la demande des autorités françaises. Si c'est bien Xavier Dupont de Ligonnès qui a été arrêté, il voyageait avec un faux passeport et avait changé d'apparence. Il était méconnaissable. Une équipe de la Brigade nationale de recherche des fugitives arrive ce matin en Écosse pour l'identifier définitivement.
Les précisions à Londres d'Aude Soufi, on l'aura compris, le conditionnel reste de mise tant que les tests ADN n'ont pas rendu leur verdict. 2 semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol, les ministres Agnès Buzyn, Elisabeth Borne et Didier Guillaume étaient en visite à Rouen hier pour installer le comité pour la transparence et le dialogue. Son objectif, suivre l'évolution et les conséquences de la catastrophe industrielle. Ce comité réunit l'ensemble des acteurs concernés, les habitants, les élus, les industriels ou encore les associations environnementales. Hier, une première réunion a eu lieu avec plus de questions que de réponses. Les précisions d'Anne Lorchouin.
40 à 50 millions d'euros, c'est le préjudice évalué par le ministre de l'Agriculture de l'incendie de Lubrizol pour les agriculteurs de la zone. Parmi eux, les producteurs de lait qui font d'ores et déjà état de 4 millions d'euros de pertes dans les 6 départements touchés, de l'Oise au nord en passant par la Somme, le Pas-de-Calais et l'Aisne. Et rien que pour la Seine-Maritime, 3 millions d'euros de production ont été détruites, essentiellement des œufs, du lait et des légumes. Et ça n'est pas un chiffre définitif. C'est donc avec soulagement que les éleveurs vont voir la collecte de lait reprendre. En attendant les dernières préconisations de l'ANSES, des mécanismes de solidarité se sont mis en place. La Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime a supervisé le don de 500 kilos de maïs destinés à l'ensilage venus de zones non touchées pour aider les agriculteurs à qui on avait interdit de couper leur maïs touché par les pluies de l'incendie. Les maraîchers cultivant sous serre ont pu continuer de commercialiser leurs produits. Mais une commission dédiée aux activités de circuit court et à l'agritourisme a été mise en place par la direction départementale des territoires après les nombreuses remontées des agriculteurs concernés. Ces derniers déplorent à la fois des pertes directes, produits non commercialisables ou commandes annulées, et indirectes, par exemple, une image dégradée de leur commerce. Enfin, les agriculteurs attendent de l'État qu'il s'assure que le principe pollueur-payeur soit mené au bout, y compris s'il s'avère que des pollutions persistent sur le long terme en cas d'accumulation dans les sols.
Les précisions d'Anne-Laure Chouin. Ils sont trois pour succéder à Laurent Wauquiez à la tête des Républicains. Le grand favori, Christian Jacob, Guillaume Larrivé ou encore Julien Aubert. Les adhérents sont appelés à voter ce week-end. Les résultats du premier tour seront connus demain soir, avec après une campagne qui n'a pas déchaîné les passions, Pierre Neveu.
Chez les Républicains, on avoue que c'est la survie du parti qui se joue ce week-end. Alors pour sortir de cette zone de forte turbulence du mois de juin, après la démission de Laurent Wauquiez, eh bien les Républicains ont d'abord tenté de panser les plaies lors d'une convention à huis clos, où il a d'abord fallu redéfinir les fondamentaux du parti. Et c'est au cœur de la touffeur estivale que les trois candidats à la présidence des Républicains se sont lancés dans un tour de France des fédérations. Christian Jacob a choisi de mener une campagne de terrain, allant chercher des soutiens de poids, comme celui de François Barouin, président de l'Association des maires de France, ou encore c'était samedi dernier à Provins, en prenant le temps de la discussion avec Nicolas Sarkozy. Les challengers, Guillaume Larrivé et Julien Aubert, se sont retrouvés autour de thèmes de rupture et d'audace, une droite patriote, nationale et libérale, en défendant des positions fermes sur l'immigration ou encore la PMA. Dans le même temps, le président du Sénat, Gérard Larcher, a lui entrepris un tour de France des territoires pour essayer de rassembler toutes les droites. Reste maintenant à désigner un chef pour mener la prochaine campagne des municipales. Son poids se mesurera en termes de participation. Au mieux, on espère entre 40 000 et 50 000 votants sur les 130 000 adhérents à jour de cotisation. Alors qu'il y a deux ans, près de 100 000 adhérents s'étaient mobilisés pour porter Laurent Wauquiez à la tête des Républicains.
Les explications...
Eh ben c'était des explications.
Nom, c'est très bonnes explications. Nous la suite, Caroline. Alors, Pierre Neveu.
La contestation face à la future réforme des retraites s'étend.
Et hier, 15 organisations des professions du droit, de la santé et du transport aérien réunies au sein du collectif SOS Retraite ont annoncé une journée de grève le 3 février si le gouvernement ne leur donnait pas des garanties sur la réforme des retraites. Ce collectif est opposé au régime universel promis par le chef de l'État et censé remplacer les 42 caisses de retraite actuelles. Il redoute à la fois de payer plus de cotisations et de perdre leurs réserves financières.
France Culture, 8h08, suite du journal de Thomas Al-Arabi. Les affrontements s'intensifient à la frontière turco-syrienne.
Oui, plus de 100 000 personnes ont déjà fui les combats en 3 jours selon l'ONU. Et les affrontements se poursuivent, notamment non loin de la petite ville d'Akçakale, située côté turc sur la frontière avec la Syrie. Une ville visée par les combattants kurdes ces derniers jours, où se trouve notre envoyé spécial Mathieu Mondoloni.
Sur les façades des immeubles, des grands drapeaux rouges frappés du croissant blanc et de l'étoile à 5 branches. Ici, tout le monde soutient l'opération militaire lancée il y a 4 jours par le président Erdogan. L'armée guerrière, tout comme les mots qui sortent de la bouche de certains habitants.
On va éradiquer Daesh, on va éradiquer le YPG et aussi le PKK. Et avec la permission de Dieu, tous les groupes terroristes. Et si quiconque essaye de s'en prendre à notre pays, on les tue.
Le bruit des canons résonne à nouveau. L'objectif est de prendre la ville syrienne de Tal Abyad, située juste en face, et pour l'instant, toujours aux mains des combattants kurdes. Tal Abyad n'est pas kurde, explique Ramazan, un jeune kurde de 29 ans. C'est une ville arabe. Les Kurdes l'occupent, c'est tout. Le but de cette opération est de rendre la terre à ses vrais propriétaires. Et les vrais propriétaires, ce sont les Arabes syriens, qui ont encore leur famille là-bas, pas les Kurdes. Quelques rues plus loin, une foule en colère porte le cercueil d'une des 4 victimes civils tués la veille. Le poing levé, ils lancent des slogans nationalistes. Les martyrs sont immortels et notre pays est indivisible.
Mathieu Mondoloni avec les moyens techniques de Marc Garvenès. Hamid Bozarslan, vous êtes l'invité de Caroline Bourret ce matin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et politologue, directeur d'études à l'EHESS, spécialiste du Moyen-Orient. Alors on vient de l'entendre, dans ce village en proie au combat, des citoyens turcs plutôt derrière leur président. Est-ce que c'est un sentiment partagé par la population turque de manière un peu plus générale ?
Non, la situation est plus nuancée. D'un côté, il y a effectivement une alliance sacrée qui s'est créée, une union sacrée qui s'est créée en Turquie. Donc officiellement, il n'y a pas de voix discordante, hein, sauf la gauche et le mouvement kurde qui s'oppose à la guerre. Et de l'autre côté, on est très 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 loin de cet enthousiasme qui s'était créé à la fin de 2017 lorsque l'armée turque est entrée dans la ville kurde d'Afrin. Il n'y a pas de mobilisation massive. Je crois qu'au contraire, hein, l'opinion publique a peur. L'opinion publique a peur parce que depuis 2017, il y a eu une crise économique. Beaucoup de gens craignent les conséquences des sanctions économiques Des États-Unis. Istanbul a peur parce qu'il y a eu 2 tremblements de terre mineurs, mais certes, qui ont annoncé ou qui ont été annonciateurs en quelque sorte 2 grands tremblements de terre à venir. Donc cela ravivait les souvenirs de 1999. Donc la Turquie a plus peur qu'aujourd'hui que se trouvait dans une situation de mobilisation massive à la faveur de la guerre.
Merci beaucoup, Amit Bozarslan. On vous retrouve dans quelques minutes avec Caroline Brouet. Merci pour votre réponse. Un peu de répit dans le bras de fer commercial qui, depuis plus de 15 mois, oppose les États-Unis justement à la Chine hier soir à Washington. Et alors qu'il recevait le vice-premier ministre chinois, Donald Trump a évoqué un accord partiel avec Pékin. Les contours de cet accord n'ont pas encore été entièrement précisés, mais Donald Trump, qui est à 13 mois de la prochaine présidentielle, assure qu'il bénéficiera aux agriculteurs américains. À Washington, Grégory Phillips.
Ce mardi, le Trésor américain devait imposer de nouveaux tarifs douaniers, plus 25 à 30% sur 250 milliards d'importations chinoises. Les sanctions sont reportées, sine die, et Donald Trump assure que là où il y avait beaucoup de friction entre les deux pays, il y a maintenant de l'amour entre les États-Unis et la Chine. Malgré tout, cet accord commercial entre les deux puissances reste encore très flou. Le président américain, dont l'objectif est avant tout de rétablir la balance commerciale entre les deux pays, affirme que Pékin s'est engagé à acheter entre 40 et 50 milliards de dollars de produits agricoles américains. Si c'est confirmé, ce serait un soulagement pour les agriculteurs d'ici qui ne parvenaient plus à exporter vers la Chine leur porc ou leur soja. Reste maintenant à écrire noir sur blanc cet accord provisoire. Ça devrait prendre entre 4 et 5 semaines. Le vice-premier ministre chinois et négociateur principal, en sortant du bureau ovale, a dit qu'il était content et parlait de progrès substantiels, mais sans donner plus de détails.
Une correspondance à Washington de Grégory Phillips. Incendie spectaculaire et mortel dans le sud de la Californie. Déjà 2 morts, plus de 100 000 personnes sous le coup d'une évacuation préventive devant l'avancée des flammes. De nombreux bâtiments ont été détruits au nord de Los Angeles. Des incendies finalement assez inattendus à cette période de l'année. Une correspondance depuis la Californie de Loïc Piala.
Pour la première fois depuis longtemps, l'été a été calme sur le front des incendies en Californie. Mais l'automne s'annonce plus chargé pour les pompiers. Poussés par les vents de Santa Ana, des vents chauds et secs habituels à cette période, les flammes du Saddle Ridge Fire ont rapidement menacé le nord de Los Angeles. C'est ce que raconte ce jeune homme à une chaîne locale. C'est arrivé tellement vite, dit-il. C'est dingue, il y a 5 heures, cet incendie n'existait pas et maintenant, on est forcé d'évacuer. D'autres, comme Jerry, n'ont même pas eu le temps d'au moins tenter de sauver leur maison. J'ai voulu préparer un tuyau, mais il y avait trop de fumée, je n'ai pas réussi, confie-t-il à ABC News. J'allais m'étouffer, alors je suis sorti en courant, on a pris nos passeports, c'est tout, même pas un pantalon de rechange. Ça m'a pris par surprise, je n'y crois toujours pas, j'ai l'impression de rêver. Le faible taux d'humidité et les vents forts devraient durer jusqu'à ce soir, alors les pompiers demandent aux milliers de personnes évacuées de rester patientes. Marcus a bien compris le message, il s'est réfugié dans son église avec sa famille. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Il faut attendre, dédramatise Marcus. Ça ne sert à rien d'être hystérique ou de se demander ce qui va se passer ou pas, c'est comme ça. La journée de vendredi a aussi été éprouvante pour de nombreux automobilistes. La fermeture préventive de plusieurs portions d'autoroute a provoqué des embouteillages monstres.
Une correspondance de Loïc Piala. Un chiffre qui fait froid dans le dos, la déforestation en Amazonie brésilienne a augmenté de 93% au cours des 9 premiers mois de 2019 par rapport à la même période l'an dernier. Selon les experts, la déforestation pourrait atteindre 10 000 km² d'ici à la fin de l'année, une première depuis 2008. Pour de nombreux spécialistes de l'Amazonie, cette recrudescence s'explique par l'activité des bûcherons et des éleveurs de bétail, encouragée par les prises de position du président brésilien Jair Bolsonaro. Du côté de la météo, demain matin, pluie et orage dans le Loiret et la Loire. De légères averses sur les pointes normandes autour de Cherbourg et la pointe bretonne. Un ciel voilé partout ailleurs. Les températures iront de 15 à Cherbourg jusqu'à 26 à Biarritz. Comptez 17 à Lille, 19 à Paris, 21 à Strasbourg, Lyon et Marseille.